Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Merci aux étudiants de Sciences Po, Monsieur Petot et Madame Revaud-Dallonne. Ce soir, c'est un peu particulier. C'est la soirée d'ouverture du cycle Au Livre Citoyen que nous organisons suite à un désir d'éclairer les élections présidentielles, les enjeux que cela comporte, et plus particulièrement de réinterroger la question de la démocratie et du rôle de l'homme politique. Donc, en ouverture de cycle, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Myriam Revaud-Dallonne, qui va nous parler de son dernier ouvrage, Le miroir et la scène, paru aux éditions du Seuil. Elle va nous en parler par le biais des questions des étudiants de Sciences Po Bordeaux qui ont travaillé sur l'ouvrage et eux-mêmes encadrés par leur professeur Jean Petot. Je vous souhaite une très bonne conférence.
Merci beaucoup, chère Lorraine. Chère Madame Myriam Revaud-Dallonne, quand nous avons appris à Sciences Po Bordeaux et le groupe d'étudiants qui va vous rencontrer ce soir, que vous étiez la première invitée dans ce cycle au Livre Citoyen, qui est un beau titre, ça nous a fait extrêmement plaisir. Je vous disais tout à l'heure, quand on s'est retrouvés, qu'on s'était rencontrés dans le cadre d'une rencontre qui était organisée à Sciences Po Bordeaux aussi, mais avec le festival Lire en Poche de Gradignan. Donc on va échanger sur ce livre que je tiens en main. Je vous présente tel que la petite notice biographique vous présente en quatrième de couverture. Donc vous êtes philosophe, professeur émérite des universités, donc à l'école pratique des hautes études. Et vous avez aussi enseigné au Centre d'études de la vie politique française, au CEVIPOF, de Sciences Po, comme on dit.
Chercheur associé,
donc à l'école aussi à l'école doctorale. Alors vous avez une quantité tout à fait passionnante de publications. Je vais en retenir deux. Et j'en cite deux, alors ça va peut-être vous surprendre, mais parce que c'est autant des coups de cœur qu'autre chose. C'est d'abord le très beau cahier de Lerne que vous avez dirigé donc avec François Azouvi sur Paul Ricoeur, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler. Vous avez été proche de Paul Ricoeur et vous avez même des responsabilités, je crois, dans la sauvegarde des travaux de Paul Ricoeur. Et puis autre chose, ça s'appelle Chouette Philo avec Michael Fassel à Gallimard Jeunesse. C'est pour dire un peu l'éclectisme et la grande variété de vos travaux, mais c'est vraiment tout à fait étonnant. Alors, donc, les étudiants qui sont là, qui sont des étudiants de quatrième année de Sciences Po Bordeaux, Monsieur Ayouba, Aurélien, Pauline et Martin, vont vous poser des questions à tour de rôle sur ce livre que je vais remettre en place, Le miroir et la scène. Moi, j'avais juste une toute première question, puis après je repasserai simplement les textes ou les questions. C'est la première question, c'est la première phrase de votre livre, que peut la représentation politique. Mais j'ai une question dans la question, parce qu'en fait vous posez la question, que peut la représentation politique. Pourquoi vous avez mis le mot peut en italique?
Pour plusieurs raisons. La première, je m'en explique, d'ailleurs, pour des raisons que j'explique dans la suite de l'introduction, qui est que j'ai insisté sur le verbe pouvoir, alors que le grand leitmotiv de la représentation relatif à l'impression, c'est l'impuissance, c'est-à-dire c'est le déficit de représentation, tout ce qu'il y a de négatif, l'inaptitude des représentants à représenter les représentés, les plaintes des représentants, les reproches adressés au système représentatif. Donc il y avait déjà ici quelque chose comme une sorte de provocation, au fond, à utiliser, à dire que peut la représentation politique, alors qu'il aurait été logique à suivre l'air du temps, c'est pourquoi la représentation politique est-elle impuissante. Bon. Ça, c'est donc il y a. Et puis la deuxième raison de l'italique, c'est que c'est une connotation spinoziste extrêmement forte. qui répond au fond à la question que pose Spinoza et que je reprends après. Que peut un corps ? Nous ne savons même pas.
Nous ne savons même pas que peut un corps.
Voilà. Nous ne savons même pas ce que peut un corps.
Oui,
l'idée, c'était au fond, est-ce que nous savons ce que peut la représentation à partir du moment où nous déconstruisons un certain nombre de fausses évidences, un certain nombre de lieux communs, puisque au fond. L'une de mes activités principales, c'est consiste à déconstruire les lieux communs.
Première question d'Aurélien.
Alors, Monsieur Petot l'a rappelé tout à l'heure, vous êtes philosophe, vous écrivez un livre qui porte sur la représentation politique. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de nombreux philosophes ou de gens qui se disent philosophes qui interviennent directement ou indirectement dans la vie politique. Selon vous, quelle est la place du philosophe ou quelle place doit avoir le philosophe en politique ?
Alors ça, bon, c'est une autre question que celle que je traite dans mon livre. Je n'aborde pas cette question directement dans mon livre. Mais effectivement, c'est une question intéressante parce que, au fond, elle répond à un souci. D'abord, vous dites, pour un certain nombre de prétendus philosophes, je ne ferai pas de commentaire sur l'adjectif prétendu philosophe ou supposé philosophe. Je comprends bien ce que vous voulez dire. Parce que, alors, en un sens, n'importe quel citoyen peut avoir quelque chose à dire sur la politique. Bon. Et donc, à ce titre, le philosophe est un citoyen comme les autres. Et il n'a pas de compétences particulières pour, au fond, instruire la politique ou pour expliquer aux politiques ce qu'ils devraient faire. Le philosophe n'est pas ce qu'on appelait dans la tradition philosophique le conseiller du prince, n'a pas à être le conseiller du prince, comme Platon, par exemple, donnant des conseils au tyran de Syracuse, ou bon, comme un certain nombre de philosophes, la philosophie des Lumières, qui ont voulu, au fond, éclairer un certain nombre de monarques ou de souverains du XVIIIe siècle.
Voltaire, entre autres.
Oui, c'est ça. Voltaire, Diderot, avec Catherine de Russie, bon, pour essayer de les déterminer ou de les pousser à être des despotes éclairés et pas simplement des despotes. Bon, alors, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, n'a pas de... c'est pas ma position, mais je pense que la réflexion philosophique peut servir à poser de façon pertinente un certain nombre de questions, et comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être à défaire un certain nombre d'évidences à la condition de faire ce que j'appelle un pas de côté. Hein, par rapport à... le philosophe n'a pas de conseils à donner aux hommes politiques. Mais il peut, quand il fait de la philosophie politique, réfléchir sur les conditions de l'action, se demander qu'est-ce que c'est qu'agir, hein, quelles sont les conditions de l'action politique, est-ce que la politique est l'affaire de tous, est-ce que tout le monde est capable d'avoir un jugement politique. Alors là, par exemple, les philosophes, ça, ce sont des questions que les philosophes débattent depuis très très longtemps, puisque par exemple on connaît le différent entre Platon et Aristote, puisque Platon pense que seul le philosophe roi est capable de guider la cité et d'insuffler les principes de la philosophie, et cette tradition platonicienne, elle a connu un certain, elle a d'une certaine façon continué à perdurer dans l'histoire de la pensée. Et puis, on a, d'une certaine façon, de l'autre côté, pour simplifier, Aristote, qui pense qu'au fond, mais ce n'est pas tellement Aristote, c'est surtout dans le grand débat qui s'appelle le Protagoras, le sophiste Protagoras, qui explique qu'au fond, n'importe quel citoyen a la capacité de juger, parce que, en tout cas à cette époque-là, la capacité de jugement ne relève pas d'une compétence particulière. Bon, donc, alors là, on voit tout de suite combien l'éducation a un rôle important, puisque pour revenir à des questions extrêmement concrètes, comment ce qu'on appelle l'éducation civique devrait, si elle était bien menée, expliquer un certain nombre de choses, éclairer sur le fonctionnement des institutions, se poser la question de savoir ce que c'est que la politique. Donc là, là il y a un rôle qui est d'autant plus intéressant qu'il s'agit, au fond, d'éclairer des jugements qui ne sont pas qui ne relèvent pas simplement seulement de l'expertise.
Aurélien, toujours. Sur... Aurélien, mais je voulais.
Oui, j'ai répondu. Oui.
Mais on va revenir sur le livre et sur le thème du livre. Donc, le fil rouge du livre, on l'a dit, c'est la représentation en politique. Vous dites dans le livre que le terme de représentation recouvre deux choses : rendre présente une chose absente, transformer l'absence en présence, et aussi intensifier et renforcer la présence, se faire voir. Donc, page 9. Il y a une phrase, la représentation est un pouvoir, il y a un pouvoir de la représentation. Pouvez-vous nous expliquer ce lien entre représentation et pouvoir ?
Alors, vous m'avez posé plusieurs questions, non pas une seule. Bon. Donc, comment ? Oui, donc il faut un peu comme ça. La première question, enfin, sur les deux sens de la représentation, il a fallu d'une certaine façon que je détricote un certain nombre de choses, puisque dans la critique actuelle de la représentation, c'est plutôt le premier sens qui est visé. Quand on dit, par exemple, les représentants ne nous représentent pas, nous sommes mal représentés, parce que ça, c'est de l'ordre de la plainte qu'on entend, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les représentants rendent pas correctement présente la chose absente que nous voulons voir représentée. Et là, il faut préciser que le modèle, c'est un peu le modèle de l'image, c'est le modèle de la peinture. Donc ça, c'est la première acception. Puis la deuxième acception de la représentation, c'est quand on introduit d'une certaine façon le pronominal, on se représente, on se présente comme agissant, et là, c'est le modèle théâtral. Alors, c'est là-dessus que se greffe effectivement cette idée du pouvoir en représentation ou des signes du pouvoir, puisqu'on sait effectivement, et un certain nombre de travaux l'ont admirablement montré, mais il suffit de penser à la célèbre pensée de Pascal, quand il décrit les magistrats avec leur robe d'hermine rouge ou les docteurs avec leur bonnet carré, en disant que ce sont là les signes d'un pouvoir qui est absolument nécessaire à la reconnaissance par les sujets de ce pouvoir. Donc, dire que le pouvoir est en représentation et que si le pouvoir est pouvoir, il est pouvoir en représentation, comme par exemple on le voit avec le portrait du roi ou avec ce qu'on appelle les signes du pouvoir, le pouvoir. Il y a tout un tas d'expressions qui tournent autour de ça, autour de l'ostentation du pouvoir en majesté. Tout ça est tout à fait juste, mais ça fait référence effectivement à la théâtralisation du pouvoir. Mais je ne me suis pas arrêtée là, puisque ce que j'ai essayé de montrer, c'est que le pronominal, le « se représenter », il doit être travaillé non pas simplement du côté du pouvoir, mais du côté des sujets. Enfin, des sujets. Non pas les sujets en tant qu'ils obéissent, mais des individus, des citoyens, disons, voilà, pour dire le haut. Et que, en fin de compte, le problème de la représentation, c'est aussi le problème du citoyen qui se représente comme tel à travers le lien représentatif. Donc, vous voyez, donc, j'ai introduit une complication supplémentaire. C'est-à-dire, premièrement, le rapport qui est lié au lien entre l'image et le modèle, enfin, entre l'image et le modèle, c'est-à-dire toute la question de la ressemblance, de l'adéquation. Deuxièmement, la théâtralité, mais cette théâtralité que l'on a toujours accordée au pouvoir à cause de ce qu'on appelle en général les signes du pouvoir, moi, je me suis interrogée beaucoup sur la capacité de représentation des citoyens. Qu'est-ce que les citoyens se représente à travers le lien représentatif. Voilà.
Ça nous amène d'ailleurs à votre autre question, Aurélien, qui est autour de la mimésis.
Oui, oui, d'accord. Donc, page 10, vous présentez le concept de mimésis comme la matrice de la représentation. Vous précisez que l'on peut traduire ce terme du grec par imitation ou par représentation, justement.
Chez Platon, on ne peut le traduire que par imitation. Et quand on prend la filiation aristotélicienne, on ne peut pas traduire par imitation, on traduit par représentation.
Donc justement, au niveau de ce débat fondamental entre Platon et Aristote, pouvez-vous nous expliciter ce concept et expliquer la différence qu'il y a entre la représentation d'Aristote et celle de Platon ?
Alors, c'est un petit peu ce que j'ai dit Non, mais ça ne fait rien. Je vais redéployer.
Pardon, si je peux préciser, l'idée, c'est bien de montrer, c'est pas ces deux formes, mais d'un côté, on a la peinture et le pictural et le théâtre. Voilà. Et je crois que c'est peut-être à rattacher aussi avec la dimension contemporaine. Quoi.
Tout à fait. Ouais. Oui, c'est bien ça que j'ai essayé de faire. Donc, en fait, parce que l'intention du livre, donc je l'ai dit tout à l'heure, ça a été un petit peu de sortir d'un certain nombre d'évidences, de lieux communs, d'approfondir tout ce que l'on entend d'habitude, à la fois du côté des travaux savants en sciences politiques, et aussi du côté du discours commun sur la crise de la représentation. Bon. Et d'abord, j'ai remarqué quelque chose, j'en venir après votre question, parce que c'est que la représentation, ce n'est pas d'abord un concept politique. Hein, et que la représentation, quand on parle de la représentation, d'abord, c'est un concept beaucoup plus large que la représentation politique, et qu'on ne comprend pas très bien comment on a pu, au fond, extraire cette idée de la représentation politique de l'ensemble des significations qui sont celles de la représentation. On a la première forme de la représentation, c'est la représentation esthétique. La représentation par la peinture, la représentation par le théâtre, mais la représentation, c'est aussi un concept métaphysique, c'est aussi un concept juridique. Donc, il y a une extension très, très grande du concept de représentation. Et que peut-être la première chose à faire, ou le premier travail à faire, c'est de se demander quel rapport il y a entre ce que nous appelons, nous, la représentation politique, qu'on considère simplement comme une délégation de pouvoir. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce que c'est que la représentation politique ? Quand vous dites aux gens, quand vous leur parlez de la représentation, ça consiste à quoi ? C'est l'élection. Donc, ils réduisent la représentation à l'élection. Ce qui est déjà, même au niveau de la représentation politique, n'est pas juste. C'est déjà une... Bon. Et puis, ce qui est encore plus, d'une certaine façon, aberrant, quand on prend ce qu'est le concept de représentation. Et donc, je suis revenue à l'étymologie, pas seulement à l'étymologie, mais à la source de la représentation, c'est-à-dire chez les Grecs, qui est d'un côté la source picturale. Chez Platon, représenter, c'est imiter un modèle qui existe déjà, et c'est surtout imiter un modèle qui est un modèle idéal, qui est l'idée. Et chez Platon, la philosophie de Platon considère qu'au fond, le sensible ne peut qu'imiter de façon très imparfaite et inadéquate le modèle idéal qui est celui de l'idée. Donc déjà ici, dans cette conception, il y a l'idée que la représentation, elle est nécessairement imparfaite. Qu'elle est nécessairement imparfaite parce qu'elle, elle opère une dégradation au niveau du sensible par rapport au modèle idéal. Et puis Aristote, quand il reprend ce concept de représentation, il le remodifie. Bon, je ne vais pas faire un cours de philosophie sur la représentation aristotélicienne, mais il le modifie, il le transforme et il le tire du côté du théâtre. Et au fond, et il travaille essentiellement sur la tragédie, sur la tragédie grecque. Et il dit que la représentation, c'est la représentation de personnages, d'hommes en action. Donc, il lie la représentation et le fait d'agir et de pâtir, parce que quand on agit, on pâtit en même temps. Les héros que l'on voit sur la scène sont des héros qui agissent et qui souffrent en même temps, qui agissent et qui subissent. Donc, la représentation, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est liée à l'action. et ce qu'on peut éclairer très bien en s'aidant de ce qu'était la tragédie grecque pour le citoyen athénien. C'est-à-dire que quand les Athéniens allaient voir les représentations tragiques, ils n'allaient pas au spectacle. C'était une activité citoyenne. C'était une activité citoyenne, c'était, on pourrait le dire, une institution. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que à travers le héros tragique, les citoyens se représentaient eux-mêmes en tant que citoyens. Non pas du tout parce que ce qu'on représentait ressemblait ou collait à leur vie, parce qu'au contraire, il y avait une espèce de distance. Il y a une anecdote extrêmement connue qui raconte qu'un... qui est rapporté par un historien, disant qu'un grand auteur tragique qui s'appelait Phrynikos, au moment des guerres médiques, des guerres entre les Grecs et les Perses, avait donné une représentation, avait écrit une pièce et donné une représentation théâtrale des souffrances des habitants de l'île de Milet qui avait été conquis par les Perses. Et les Athéniens avaient été tellement touchés qu'ils avaient pleuré. Les spectateurs avaient pleuré. Eh bien, non seulement l'auteur n'a pas été félicité, mais il a été puni. Il a été puni d'une amende assez considérable parce que la tragédie n'est pas là pour, être trop proche de ce qu'éprouvent les citoyens, mais au contraire pour établir une distance à travers laquelle ils peuvent élaborer ce qu'ils ressentent. Est-ce que je me fais comprendre? Donc voilà. Donc il y a quelque chose qui est très intéressant ici. Et il y a une espèce de matrice, au fond, d'une prise de conscience de quelque chose que les citoyens vivent, mais qui ne colle pas exactement à ce qu'ils éprouvent et à ce qu'ils
Alors que vous écrivez que les spectateurs sont les auteurs de ce que
Ça, c'est après.
On est déjà dans cette perspective.
Et on est déjà... Alors, on est déjà dans l'idée que la représentation, ici, elle opère quelque chose comme un travail. Et pas simplement... au fond, elle n'est pas simplement comme l'imitation la marque d'un décalage ou d'une plus ou moins grande ressemblance par rapport au modèle idéal, le rapport entre l'image et le modèle. Et alors, évidemment, à partir... je me suis fait à moi-même une objection, l'objection qui est qu'on ne va plus au théâtre maintenant, comme les Athéniens allaient voir des tragédies, et que la cité grecque, ce n'est pas le monde moderne. Bon, bien entendu. Et je me suis demandé, néanmoins, en dépit de la différence des temps, sur laquelle je reviens très longuement dans le livre, sur la différence fondamentale entre les conditions de la démocratie grecque et les conditions de la démocratie moderne, je me suis demandé si néanmoins cette espèce de clivage entre la peinture et le théâtre, ou entre la représentation picturale et la représentation théâtrale, ne travaillait pas quand même encore aujourd'hui de manière implicite. Dans une modernité qui ne fonctionne pas du tout dans les mêmes conditions que l'Antiquité grecque, ni que ce qu'on appelle le système théologico-politique.
Pauline.
Donc pour en revenir à la modernité, vous exposez au début de votre ouvrage que l'actuelle crise de la représentation, comme vous le mentionnez, toutes les critiques qu'on entend actuellement dans l'air du temps, ne sont en fait pas réellement une crise de la représentation nécessairement en elle-même, mais sont plutôt liées à un problème de non-reconnaissance des citoyens en assemblable, finalement, dans leurs représentants. Et donc que la crise actuelle de la représentation est en fait plus liée à une crise d'identification. Et je me demandais si vous pourriez peut-être expliciter quels sont à ce moment-là les critères de cette identification. Qu'est-ce qui fait que le représenté puisse s'identifier à son représentant ?
Je vais d'une certaine façon revenir à ce que j'ai dit sur le théâtre grec, parce que ça permet de faire une transition. Quand j'ai dit tout à l'heure que les citoyens, spectateurs, se reconnaissaient à travers l'action qui leur étaient présentées ou à travers les spectacles. Prenons par exemple les grandes tragédies Œdipe, l'Orestie. Non, ils ne se reconnaissent pas dans les héros tragiques uniquement parce qu'ils leur ressemblent, parce que c'est pas vrai qu'ils leur ressemblent, qu'ils sont. Mais ils se reconnaissent en eux en éprouvant ce qu'Aristote appelle à la fois de la pitié et de la terreur. De la pitié parce que ce sont des hommes comme eux, et de la terreur parce que ce sont des hommes qui ont commis des actions absolument en lesquelles eux ne se reconnaissent pas. Mais c'est précisément cette distance qui fait l'identification, qui fait que quand je reconnais, parce qu'il y a une ambiguïté fondamentale sur le mot de semblable. Le semblable, par exemple, je peux reconnaître en tout autre homme mon semblable, parce qu'il est un homme. Donc là, on passe par quelque chose qui est de l'ordre d'une, presque d'une abstraction. Et ça, ça a été une conquête de la modernité, en particulier une conquête des Lumières, une conquête de la démocratie moderne. Mais le semblable, ce n'est pas forcément celui qui me ressemble. Parce que précisément, si je ne vois dans le semblable que celui qui me ressemble, on sait très bien à quoi ça mène. C'est-à-dire, n'est semblable à moi que celui qui est identique à moi. Alors que le problème de la reconnaissance du semblable, c'est que je puisse reconnaître, que nous puissions nous reconnaître comme porteurs d'humanité, ce qui n'est pas du tout, la même chose. Or, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est de faire la distinction entre l'identité et l'identification. L'identité et l'identification. L'identité, on est dans le règne du même, alors que l'identification, on introduit quelque chose qui est paradoxal, qui est à la fois de l'identité et de la différence, les deux étant absolument indissociables. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de crise de la représentation, on ne sait même pas de quoi on parle. C'est ça. On ne sait même pas de quoi on parle, puisque on dit qu'on est bien ou qu'on est mal représenté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que les gens veulent dire quand ils disent on est bien ou mal représenté? Est-ce que ça veut dire simplement qu'ils sont représentés par des gens qui ne leur ressemblent pas? Mais là, c'est complètement. Il y a une injonction paradoxale, parce que quand on, si je reviens au système électif, quand on élit des gens, on élit des gens qui ne sont pas tout à fait semblables à nous. Puisque sinon, on s'élirait soi-même. On élit des gens dont on considère qu'ils ont quelque chose comme une, j'utilise ça avec beaucoup de précaution, une supériorité, entre guillemets, qui sont capables de,
oui,
on va dire, d'exercer des fonctions que nous...
Et dans lesquelles on se reconnaît ou on reconnaît une part de soi.
Voilà. Donc ça veut dire que ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a à la fois une injonction de supériorité, entre guillemets, parce que c'est très mal défini, cette injonction de supériorité, et une injonction d'égalité. Ce qui fait que, par exemple, quand le président dit « je veux être un président normal », alors on n'est pas content... Alors qu'en même temps, parce que ça répond pas à cette injonction contradictoire. On veut qu'il soit normal, parce que dans une démocratie, il y a une injonction d'égalité, mais en même temps, on ne veut pas qu'il soit normal, et donc ça ne va pas.
Mais je reviens à vos...
Vous voyez ce que je veux dire, l'injonction paradoxale.
Je reviens à vos spectateurs de la tragédie grecque. Vous le dites dans le livre, d'ailleurs, les acteurs dans la tragédie grecque et après dans la tragédie romaine, ils portent un masque. Hein, et d'ailleurs, l'étymologie, je vous la laisse dire, un persona. Donc c'est le mot personnage, la personne, c'est un masque. Hein. En vous lisant, d'ailleurs, je repensais à tout ce qu'écrivait, d'ailleurs, et ça c'est autre chose, hein, Lévinas sur le visage de l'autre. Mais ça, c'est un autre débat. Hein. Dans cette dimension, dans le rapport au représentant, quand on dit, par exemple, il faut de la transparence, on est dans une... C'est une autre aporie, presque, puisque le masque cache,
absolument,
par définition, la transparence.
Le masque, ce n'est pas la transparence, mais c'est à travers le masque que passe la voix du représentant. Et l'injonction de transparence, bon, j'ai déjà aussi beaucoup travaillé là-dessus, elle est extrêmement...
Je vous branche là-dessus, si je puis dire.
L'injonction de transparence, elle est extrêmement paradoxale. C'est-à-dire qu'on sait très bien, par exemple... La transparence, ça n'est pas ce que la philosophie des Lumières a appelé le principe de publicité. Ce n'est pas la même chose, on confond les deux. quand les philosophes des Lumières, je pense à Kant, mais aux autres encyclopédies, ont revendiqué ce principe de publicité, c'était pour lutter contre ce qu'on appelait les secrets de la domination. C'était pour lutter contre les secrets attachés à la pratique du despotisme. Donc ce que voulaient les philosophes des Lumières, c'est que les questions politiques soient portées dans l'espace public. Mais que les questions politiques soient portées dans l'espace public. Alors que maintenant, l'injonction de transparence, ça ne porte pas sur comment dire, la nécessité que les questions politiques soient portées dans l'espace public, ça porte sur, par exemple, la mise en scène de l'intime, sur la publicité de l'intime. Et enfin, il y a quand même quelque chose d'absolument extravagant, parce que ceux qui revendiquent la transparence, ils ont aussi besoin d'utiliser le secret pour mener un certain nombre d'investigations. On le voit, par exemple, à propos des dernières révélations sur les comptes bancaires des sociétés offshore.
LuxLeaks.
Voilà. Et il a fallu mener des investigations dans le plus grand secret afin de pouvoir, comment dire, au fond, démonter et faire passer dans l'espace public. Donc là aussi, à la limite, on pourrait presque que dire qu'une certaine revendication de transparence est antipolitique parce qu'elle ne permet pas de distinguer ce qui est de l'ordre du privé et ce qui est de l'ordre du public.
De l'intime et de l'extime.
Voilà.
Martin, on va passer directement à une question de Martin, parce que c'est un peu... Ça rebondit, je pense.
Vous vouliez poser une autre question ?
Pauline, vous aviez quelque chose... Mais c'était un peu sur les... C'était dans l'actualité, on était plus dans l'actualité. Alors allez-y, mais allez-y peut-être... Non, allez-y Pauline. Ah, non.
Donc ça revient.
Mais c'est la seule femme, on ne va pas l'empêcher.
Mais je ne voulais pas que vous, ça vous amène à répéter ce que...
Non, mais ce n'est pas grave. Si je répète, je répète autrement.
Ce sera peut-être...
Comme tous les profs.
Allez-y, Pauline.
Ce serait plus pour rebondir donc, sur cette injonction contradictoire entre le désir d'avoir un représentant, donc en l'occurrence un président normal, et à la fois un individu anormal, pour ainsi dire, en tant que président. Et
vous pensez à quelqu'un comme individu anormal,
voilà.
Non, mais parce qu'elle pense
qui est légitimé,
à quelqu'un.
C'est un problème de légitimité.
C'était pour rebondir sur l'actualité. Donc, c'est vrai que cette crise de la représentation, ce problème d'identification avec les représentants, on les trouve partout dans le monde occidental politique actuellement. Et très récemment, on a eu l'exemple, évidemment, de l'élection américaine, donc de l'élection de Donald Trump, qui peut sembler, du moins, tout sauf un président normal. Donc, je me demandais si, finalement, cette élection de Donald Trump, qui est par ailleurs très controversée, et ainsi de suite, est, selon vous, une représentation adéquate ou une représentation, quelque part, modèle de cette injonction contradictoire entre la volonté d'avoir à la fois un individu normal auquel on puisse s'identifier et, en même temps, un individu différent du reste ou de la masse, pour ainsi dire.
On peut dire en un sens ça, parce que là c'est une injonction qui est plus que paradoxale, c'est une injonction qui est totalement contradictoire, puisque voilà, la révolte des classes populaires, des petits blancs laissés, alors ils élisent quelqu'un qui est un milliardaire qui n'a jamais payé ses impôts. Hein, qui se vantent de ne pas payer ses impôts. Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus grave que le problème de la représentation. Il y a, pour moi, quelque chose qui relève d'une difficulté paroxystique de la démocratie. Et pas seulement du mécanisme représentatif, c'est-à-dire qui amène à poser des questions sur... ce que c'est maintenant, ce qu'est devenu la démocratie, ce que c'est que la démocratie. Et c'est aussi une... comment ça mène à poser... Moi, j'en reviens toujours à des questions, au fond, d'éducation politique, c'est-à-dire comment on peut en venir à choisir pour nous représenter quelqu'un qui est tellement contradictoire avec la souffrance qu'on est censé exprimer. Si tel est le cas. D'ailleurs, c'est pas, il n'y a pas que la souffrance, il y a aussi un certain nombre de pathologies, comme bon, le racisme, la xénophobie, etc., etc., le rapport à l'autre, la crainte, qui se sont développées à l'intérieur, au fond, d'une manière de vivre la manière démocratique dont on pouvait penser qu'elle limiterait cette pathologie. Donc, c'est plus encore qu'un problème de représentation.
Martin.
Oui, donc du coup, justement, vous dites qu'il y a une véritable contradiction dans cette élection de Donald Trump. On va rester dans l'élection américaine. Comment est-ce qu'on peut justement retrouver une identification aux représentants ? Parce que vous dites qu'il y a un véritable paradoxe, qu'il n'y a plus d'identification, que l'élection américaine est une véritable contradiction. Donc comment justement on peut retrouver cette identification aux représentants ?
Alors, d'abord, premièrement, on peut il faut essayer de se retrouver soi-même à travers le lien représentatif. Parce que qu'est-ce que c'est il faut revenir à ce que c'est que la représentation. La représentation, ça consiste pas simplement à déléguer son pouvoir. Si on considère que la représentation, c'est uniquement un mécanisme, hein, comme si on la réduit à l'élection, et si on considère que la représentation, c'est uniquement une procédure qui consiste à déléguer son pouvoir à un ou à des individus, à des représentants ou à des gouvernants, afin qu'ils agissent à notre place, qu'ils fassent ce que nous voulons qu'ils fassent, on court à l'échec. On court absolument à l'échec. Et c'est pour ça que j'ai voulu revenir, au fond, à la question fondamentale de la représentation, qui est le lien représentatif. La représentation, dans les démocraties contemporaines, dans les démocraties modernes, c'est ce qui fait lien. Nous n'avons pas d'autre moyen, au fond, de concevoir une cohérence sociale et politique que par le biais de la représentation, c'est-à-dire par le biais des médiations institutionnelles. Donc le problème, c'est pas d'être pour ou contre la représentation, parce que la démocratie participative ou les procédures délibératives, ce ne sont pas des alternatives. Ce sont des modalités qui enrichissent, qui corrigent, qui rectifient, mais elles ne peuvent pas remplacer le lien représentatif qui est absolument inhérent aux démocraties modernes. Bon, et d'ailleurs, on voit très bien, au fond, vous prenez l'exemple de Trump. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Trump ? Il a voulu court-circuiter dans sa campagne électorale tout ce qui était de l'ordre des institutions, comme tous les populistes font comme ça, ils s'adressent directement au peuple en court-circuitant toutes les médiations représentatives, toutes les institutions, et ils s'adressent au peuple comme si le peuple était une entité naturelle, alors que précisément la représentation, c'est une opération qui fait comprendre que le peuple ne se constitue comme tel qu'à travers l'opération représentative. J'ai beaucoup travaillé sur le modèle de Hobbes, mais tout ça, ce sont des problèmes extrêmement contemporains. Il ne faut pas penser que...
Je me permets de vous lire, parce que c'est très clair dans votre texte, page 89. Oui. C'est en instituant le représentant souverain que la multitude acquiert le statut de peuple. Et vous ajoutez, le peuple est lui aussi un opérateur fictif.
Voilà.
Il faudra se souvenir, dites-vous, de cette donnée fondamentale pour clarifier certaines critiques actuelles qui supposent implicitement la précédence d'une communauté politique substantielle lorsqu'elle dénonce la non-représentativité des institutions et des individus les représentants. Voilà. Là, on est au cœur du problème.
Hein. Mais pour, comment dire, au fond, ce qu'il faut, on est au cœur du problème. En général, quand on remonte aux conditions de possibilité en analysant ce qui, on est au cœur du problème parce qu'effectivement. Le peuple, c'est pas une entité naturelle. Et aussi bien Rousseau que Hobbes l'ont très bien, même si Rousseau est critique de la représentation, mais ils disent très bien que c'est par le pacte, par le contrat, que le peuple se constitue comme tel. Avant, il n'y a qu'une multitude d'individus. Que ces individus soient dans un état de guerre de tous contre tous, comme chez Hobbes, qu'ils soient dispersés. Bon, donc peu importe. Mais le peuple ne se constitue comme tel qu'à travers cette opération qui le fait exister.
Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qu'avait...
C'est une opération fictive, ce n'est pas du tout critique. C'est bien pour montrer que la question de la fiction est une question fondamentale. Mais
est-ce qu'on peut dire que les pères fondateurs de la Constitution américaine avaient parfaitement compris ça, puisqu'ils disent « we the people »,
nous le peuple. Ah. Alors, quand ils disaient « we the people », ce n'est pas pour dire « nous » comme une communauté organique, « nous, le peuple » qui existons naturellement, c'est « nous ». Le peuple, en tant que le peuple,
érigé, quoi.
Se reconnaît et constitué. C'est-à-dire le peuple est une construction. Et il est important de concevoir...
Construction
que...
et constitution, c'est ça qui est
voilà,
intéressant.
Voilà, oui, est une construction hein et une autoconstitution. Et c'est à travers cette construction qu'il y a cette autoconstitution. Et ça, c'est la puissance ou le pouvoir de la fiction. Parce que j'ai répondu à votre question. Voilà.
Ça enchaîne avec Aliou.
Je voulais aborder une autre question d'actualité qui a peut-être été moins abordée dans les médias. C'est le fait, par exemple, qu'il y a près de 50% des Américains qui sont abstenus, qui ne sont pas allés voter pendant cette élection.
50% qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales.
Aussi, mais bon. Ouais. Je voulais aborder plusieurs éléments que vous abordez dans votre livre. Tout d'abord, vous décrivez les différentes institutions représentatives dans votre livre et vous parlez de l'élection comme un mode de sélection et un mode de légitimation. Une autre notion que vous abordez, c'est aussi la citoyenneté, que vous décrivez comme civile de nos jours et qui se caractérise surtout par la jouissance de droits. On aura donc une participation des citoyens qui se fait essentiellement au moment de l'élection, qui pour beaucoup est le moment phare de la vie démocratique. Mais donc on observe aussi qu'il y a cette tendance forte de l'abstention depuis de nombreuses années. Et donc je voulais vous demander si cette tendance abstentionniste, est-ce qu'elle peut remettre en cause la légitimité que confère l'élection ?
Ça dépend comment on l'a... C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a généralement considéré que l'abstention était un déficit par rapport à la participation. Et c'est vrai que les travaux de sciences politiques, notamment, ont montré que maintenant, l'abstention, c'est pas simplement une abstention par défaut, mais une abstention qu'on pourrait presque dire, je sais pas, positive, c'est-à-dire un acte réfléchi. On ne va pas voter, pas du tout parce qu'il fait beau et qu'on va aller pêcher à la ligne, mais on ne va pas voter parce que c'est une manière de, comment dire, au fond, c'est même plus seulement protestataire, mais on ne va pas voter.
C'est quelque chose qui a un sens.
Voilà. Bon, alors ça peut être, intéressant, mais on peut supposer aussi que si on... donner une plus grande validité au vote blanc ou au vote nul, les gens s'abstiendraient moins. Hein, et qu'ils pourraient, d'une certaine façon, manifester positivement autre chose.
Je me permets de me poser de vous interrompre, mais on en ferait quoi de cette reconnaissance ou cette représentation du vote blanc ou du vote nul ? Une fois qu'on l'aurait enregistré, on en ferait quoi du point de vue du fonctionnement des...
Alors, peut-être que ça amènerait à... Ça, ce sont des questions à modifier les modes de scrutin. Peut-être que... Je sais pas, ça pourrait amener à modifier des procédures. Bon. Ça pourrait, c'est possible. Hein. Je ne dis pas que ça se ferait immédiatement, mais ça pourrait aussi... on pourrait aussi réfléchir à ce moment-là de façon plus... Parce que ça ne fait pas très longtemps qu'on commence à dire que l'abstention, c'est quelque chose qui réfléchit. Hein. Et donc, et d'ailleurs, les politistes se sont emparés de cette question pour s'interroger effectivement sur la validité, non pas du système représentatif, mais sur la validité de la représentation telle qu'elle est menée. Donc là, on a un fait, une réalité factuelle qui amène à réfléchir. C'est quelque chose, mais c'est un élément empirique qui amène à réfléchir sur... Mais ça ne change pas, si vous voulez, ça change pas fondamentalement, je crois... L'analyse, au contraire, ça la confirme, l'analyse que je fais du fait que le déficit de représentation, c'est pas simplement que c'est pas que les représentés se reconnaissent pas ou ne reconnaissent pas dans les représentants des gens qui leur ressemblent, ça veut dire que les représentés ne se reconnaissent pas en tant que citoyens dans l'opération représentative. Donc c'est là que doit porter la réflexion. C'est pas un problème empirique, c'est un problème de réflexion.
Aurélien.
Page 69, vous dites qu'aujourd'hui, on est dans un processus de désincorporation.
Oui.
Donc, une seule question, là, c'est qu'entendez-vous par ce terme de désincorporation ?
Alors là, je reviens un peu en arrière, c'est-à-dire que la démocratie moderne, quand elle s'est instituée en tant que telle, a été un processus de désincorporation qui a fait que la société politique ne pouvait plus être considérée comme une communauté organique. C'est tout ce qui s'est passé, pour dire que tout ce que j'ai analysé à travers Kantorowicz, la grande doctrine du double corps
du roi. C'est possible de la, pas de la résumer, mais de la. C'est compliqué, mais est-ce que vous pouvez expliquer cette thèse passionnante de Kantorowicz
dans la société, essentiellement dans la société médiévale, c'est dans un système théologico-politique où la société politique tient sa cohérence et son organisation de la transcendance, de la présence de Dieu. Le roi est le représentant de Dieu sur la terre, mais il est le représentant de Dieu sur la terre au sens où il incorpore dans sa personne la société et la cohérence de la société. Et c'est la raison pour laquelle le corps du roi est à la fois un corps charnel, périssable, le roi est un homme comme les autres, il meurt, etc. Mais en même temps, il symbolise, à travers son corps immortel, la communauté du royaume. Quand on dit « le roi est mort, vive le roi ». Le roi de chair est mort, vive le roi avec un R majuscule. Ce n'est pas simplement l'individu ou le fils qui lui succède en tant que mortel, mais c'est la royauté. Et à un certain moment, pour toutes sortes de raisons, qui sont à la fois des raisons qui tiennent à l'organisation du monde, à la révolution scientifique, à la révolution galiléo-copernicienne, à l'instauration de la modernité, on a à l'ordre du monde, un bouleversement de l'ordre du monde, on a un processus de désincorporation qui correspond à ce qu'on appelle le retrait du divin ou le retrait de la transcendance, et où l'ordre politique n'est plus garanti par le divin, et où le roi, le monarque n'incarne plus la communauté tout entière. Et donc, à ce moment-là, on a un processus de désincorporation, puisque la société est une société d'individus dont la cohérence n'est pas garantie a priori, dont la cohérence n'est pas donnée a priori, mais qu'il faut au contraire constituer. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est la représentation qui vient maintenant prendre la place de ce qui était autrefois assuré au niveau de la communauté organique par le corps du roi. C'est pour ça que je parle du lien représentatif. Il faut quelque chose maintenant qui fasse lien. Et c'est le génie de Hobbes d'avoir admirablement montré comment l'opération représentative, c'était l'opération par laquelle les sujets, quel que soit, je ne parle pas ici du despotisme de Hobbes, du fait qu'il n'était pas démocrate, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il a pensé à travers cette opération, même si c'est un penseur de l'absolutisme. Il a pensé la façon dont, il ne faut pas oublier des faits historiques extrêmement concrets, Hobbes, il a assisté plus ou moins à la décapitation de Charles Ier, du roi d'Angleterre. Donc symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on décapite le roi, la tête du roi tombe et la tête du royaume tombe. C'est-à-dire que ce qui assure la cohésion du royaume tombe.
Et on est un siècle avant la Révolution française.
Mais ça a donné lieu à quoi? À la première Révolution anglaise. Ça a donné lieu à la première révolution moderne. Première révolution anglaise, la deuxième révolution anglaise, il y a eu d'autres révolutions que la révolution française, la révolution américaine. Donc c'est l'un des débuts de la modernité politique, parce qu'il y en a plusieurs. Et Hobbes se pose une question à la fois très simple et absolument évidente. Il dit, maintenant, voilà, la tête du roi, elle est tombée, mais qu'est-ce qui va faire que les sujets, parce que lui, il ne parle pas, vont obéir à une autorité légitime. C'est très simple. Qu'est-ce qui fait, puisque le divin s'est retiré, où est la garantie de la légitimité? Et où est la garantie de l'obéissance? Eh bien, la garantie de l'obéissance, ça va être l'opération représentative par laquelle les sujets vont conférer au souverain une autorité qui les représente et qu'ils reconnaissent comme telle. Et Hobbes a ce génie absolument extraordinaire de travailler avec la métaphore théâtrale en disant le peuple est l'auteur de la pièce que joue le souverain. Et le souverain est l'acteur. Alors c'est très intéressant parce que, et en même temps, il y a une troisième dimension qui complique encore les choses, mais qui permet de très bien comprendre. Le peuple est le spectateur, il est l'auteur de la pièce que le souverain joue devant lui, et en même temps, il en est le spectateur.
On a tout le titre, donc, on a le miroir et la scène.
Hein. Mais oui, mais bien sûr. Ah,
voilà, exactement.
Et donc, en tant que spectateur, il faut que, les sujets, les citoyens, se reconnaissent comme les auteurs de la pièce qu'ils ont écrite. Alors moi, je dirais que la crise de la représentation maintenant, c'est que les citoyens ne se reconnaissent plus comme les auteurs de la pièce que les représentants jouent devant eux et qu'ils ont écrite. Voilà, donc c'est très intéressant parce que ça fait intervenir les trois dimensions, l'auteur, l'acteur, le spectateur, et c'est le modèle théâtral qui est invoqué explicitement.
Si je vous ai bien lu Rousseau, c'est une toute autre approche. Il remet complètement ça en
tout
cause.
Bon.
Est-ce qu'on, je ne sais pas si on peut dire qu'il est plus du côté du pictural, peut-être, en tous les cas, dans l'un bien un peu idéal ou idéal. Bon.
Il
ne croit en rien là-dedans. Même la fameuse idée comme quoi la démocratie athénienne, il dit finalement ça marchait pas, ça embêtait les gens de passer du temps.
Le problème, mais c'est pour ça que je pense que c'est au fond la question qu'il y a derrière le débat sur la représentation, c'est quel est le type d'unité de la communauté politique. C'est-à-dire que Hobbes assume, quand je disais tout à l'heure, on a des injonctions paradoxales et on ne peut pas avoir autre chose que des injonctions paradoxales. Il faut comprendre ça. Et que dans la démocratie, il y a quelque chose de paradoxal. Et qu'on ne peut pas, c'est pas qu'on ne peut pas vouloir de la perfection, mais il y a une sorte de, il y a un conflit, un paradoxe inhérent à la manière de vivre, à la manière démocratique, qui ne justifie ni les injustices, ni l'inégalité. C'est pas ça le problème, mais il n'y a pas d'adéquation parfaite. Alors, ce que voudrait Rousseau, c'est une communauté complètement transparente, accordée à elle-même, parce que Rousseau, c'est pas seulement un penseur politique, hein. C'est un écrivain, c'est un anthropologue, c'est quelqu'un qui déteste le théâtre. Ça, c'est très intéressant. Il déteste le théâtre parce qu'il pense que le théâtre, c'est l'art du simulacre, c'est la mascarade, etc. Et alors, il oppose le théâtre et la fête révolutionnaire, etc., où tout le monde se reconnaît. Et alors, il y a un texte extraordinaire où Rousseau dit, alors, qu'est-ce qu'on donnera ? Parce que le spectacle, il dit, on va au théâtre, hein, et alors, on a d'un côté les spectateurs passifs, qui regardent la scène, ils sont dans l'obscurité, la scène est illuminée, donc c'est le royaume du dualisme, donc il n'y a rien à voir avec la tragédie grecque. Pour lui, c'est un spectacle lié, à la division aristocratique et d'autre part à l'inégalité, etc. Bon. Et puis alors, il y a la fête, et dans la lettre à D'Alembert, il dit, mais qu'est-ce qu'on va montrer dans la fête ? Qu'est-ce qu'on va donner à voir ? Il dit, rien, rien. Rien d'autre que la pure joie publique. Et qu'est-ce que ça veut dire, rien ? Ça veut dire qu'il y aura... C'est la transparence absolue. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de différence, il n'y aura plus de médiation, il n'y aura plus aucune opacité, c'est la rencontre des consciences, etc., etc. Mais c'est un type de communauté qui est une communauté organique, qui est une communauté soudée. Et donc, moi, je crois que ce qui est en jeu derrière ce débat sur la représentation, on peut aller pas encore plus loin que là. C'est quel type, dans quel type de société, quel est le type d'unité, qu'est-ce qu'on veut comme type d'unité dans une société politique.
Ça nous ramène, enfin, ça amène tout de suite cette phrase de Rousseau, qu'est-ce qu'on va donner à voir. Il y a une question de Pauline autour de ça, puisque ça nous amène à Anna Pitkin. Hein.
Voilà.
Anna Pitkin.
Donc justement, comme vient de me dire Monsieur Poteau, dans le sixième et dernier chapitre de votre livre, vous évoquez les visions qu'Anna Pitkin a du terme représentation et de sa polysémie. Et je me demandais si vous pourriez peut-être, d'une part, revenir sur ces visions, expliciter un peu donc ces visions, et les rattacher, si possible, à l'actuel système politique.
Écoutez, je pense que c'est un peu... Ça, c'est vraiment, excusez-moi, un peu technique. Hein. Bon, et d'autre part, ce que j'ai voulu dire sur Pitkin, c'est que quel que soit... parce qu'elle a beaucoup influencé, on sait, la science politique. Je ne sais pas si vous l'avez lu.
Directement.
Bon, voilà. Bon, parce qu'elle n'est pas traduite en français, hein, Pitkin, en plus. Bon. Et elle a, par exemple...
Mais elle est très à la mode chez certains auteurs de ma confrérie, je peux
Oui, je sais, elle est très à la mode. Si vous voulez, ça peut être très intéressant. Et alors, elle est d'autant plus à la mode qu'elle a beaucoup inspiré, par exemple, toutes les revendications autour du genre, c'est-à-dire de la... toutes les revendications autour de la représentation des minorités, de la représentation des femmes, etc.
Les stéréotypes, etc.
Voilà, etc. Mmh. Bon. Mais moi, ce que j'ai simplement... J'ai pas beaucoup parlé de Pitkin. Ce que j'ai simplement dit, c'est que Pitkin, elle, comme beaucoup d'auteurs américains, elle évacue complètement le rôle de la subjectivité, le rôle de la réflexivité, le fait que les citoyens se représentent, parce que par exemple sur la question de la représentation des affects, elle dit que c'est ce qui favorise les systèmes totalitaires. Bon, c'est pas vrai. Je veux dire, on peut pas non plus dire que tout ce qui est de l'ordre de la subjectivité, c'est ce qui favorise les systèmes totalitaires. Elle le dit explicitement. Donc elle est, pour moi c'est Pitkin, c'est une vision de la représentation qui est commandée par la philosophie analytique, qui n'est pas du tout la mienne. J'ai toujours travaillé énormément sur la question des affects, sur la question de la subjectivité, sur passions, la question des émotions, sur la question des passions, parce que je considère, contre un certain nombre d'auteurs anglo-saxons, ça je dis le chose très clairement, que la démocratie, c'est pas un système procédural. C'est pas un système procédural, c'est beaucoup plus que ça. C'est une manière de vivre ensemble. J'ai bien lu Tocqueville, hein, qui disait que la démocratie, c'est une forme de société. Et quand on dit que la démocratie est une forme de société, ça veut dire que ça englobe quoi ? Le rapport qu'on a avec le pouvoir, c'est aussi un rapport lié à la subjectivité. Tout n'est pas entièrement rationnel. Donc le problème, c'est que quand on abandonne la réflexion politique uniquement à des approches quantitatives, eh bien, on aboutit d'une certaine façon aux catastrophes auxquelles on assiste maintenant et qui sont absolument inopérantes. Comment voulez-vous, si vous réduisez tout ce qui est de l'ordre des affects, de la subjectivité, à la manipulation politique, qu'est-ce que vous pouvez comprendre ? Enfin, je veux dire, moi, je renverrais volontiers les auteurs américains à la lecture de Montesquieu, hein, c'est-à-dire la différence entre la nature et le principe. Bon, voilà. Donc, je suis assez...
Non, mais c'est bien, parce qu'on voit que ça vous touche. Oui, c'est bien, oui.
Moi, vous avez parlé de Ricoeur tout à l'heure. Oui. Moi, je suis, j'appartiens à un courant qui vient de la phénoménologie. Et donc, il y a quelque chose, et puis il y a quelque chose qui me paraît extrêmement important. La réflexion sur la politique, ce n'est pas une réflexion décharnée.
Oui, oui.
C'est ça que le problème.
Alors, on arrive un peu à votre conclusion. C'est Martin qui va... Qui va évoquer un point qui tenait à cœur aux étudiants dans non pas la partie, on va dire, proposition, hein, votre livre n'est pas ni un manifeste ni un catalogue avec des solutions, hein, les questions sont plus importantes, hein, mais quand même, allez-y Martin, sur un mot qui a retenu l'attention des étudiants.
Alors, justement, dans votre conclusion, vous dites qu'il ne faut plus représenter les identités, mais qu'il faut représenter les capacités, les capacités. Alors, comment on mesure ces capacités ?
Les capacités.
Les capacités, et comment on les représente, concrètement ?
D'abord, on ne les mesure pas. Hein ? Puisque j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans l'ordre du quantitatif. On ne les mesure pas, on considère que ce que les individus, ce pourquoi les individus, ce au nom de quoi ce qu'ils revendiquent ou ce qu'ils demandent ou ce qu'ils devraient demander à voir reconnu, c'est pas des identités qui sont des identités figées, hein, c'est des capacités qui leur permettent d'accéder, en l'occurrence, au fond, à une action dans l'espace public. Et ce n'est pas une identité. Par exemple, j'ai pris l'exemple des femmes, à un certain moment. Quand les femmes revendiquent pour être correctement représentées, même si on est obligé d'adopter un certain nombre de mesures plus ou moins quantitatives, comme la parité, à cause de l'opposition que rencontre ce type de revendication, elle ne revendique pas au nom d'une identité figée, puisque c'est précisément cette identité à laquelle elles ont été assignées et au nom de laquelle on ne leur a pas permis d'accéder à l'activité publique. Donc, elle ne revendique pas au nom d'une identité qu'elle récuse, de la même façon quand un certain nombre de combats qui font que, par exemple, la question du genre est devenue une question politique, ou la question de la famille, la question de l'homosexualité, la reconnaissance des droits des homosexuels, on ne revendique pas au nom d'une identité qui était une identité figée, mais pour que, au fond, la reconnaissance de ce que l'on peut faire dans l'espace public, presque indépendamment de cette identité, soit reconnue. Donc c'est ça que j'appelle les capacités. La capacité, essentiellement la capacité d'agir, et qui fait que ce n'est pas parce qu'on est tel ou tel que... Donc il y a toute une réflexion qui est ici, que j'ai aussi menée, sur la différence entre l'identité et l'identification.
Alors justement, vous placez la capacité imaginative au centre de l'invention démocratique.
Pardon ?
Vous placez la capacité imaginative au centre de l'invention démocratique. Donc je cite l'imagination générale. Je cite la dernière phrase de votre livre. La coupure qui ouvre l'espace de la fiction ne nous éloigne pas du réel. Elle fraye une voie d'accès à l'agir dans le monde. Comment est-ce que la fiction peut aider la représentation politique ?
Je l'ai déjà dit, par exemple avec Hobbes, ou avec la tragédie. C'est-à-dire qu'on n'accède pas au réel en collant au réel immédiatement. D'une certaine façon, on peut dire que la fiction, ça peut représenter toutes sortes de modes opératoires. C'est par exemple, la fiction, c'est l'acte par lequel le peuple se constitue en peuple. C'est une abstraction. Donc, la fiction, c'est aussi inventer des manières de se représenter en tant que citoyen qui ne sont pas forcément des procédures électives, mais d'autres modalités d'action. Ça peut être, par exemple, des procédures, la façon dont les gens se racontent, la façon dont aussi ils écrivent leur vie, ce que j'ai appelé l'identité narrative. Donc il y a toutes sortes de...
Oui, une identité narrative, ça vous situe alors là, directement dans, dans le courant de Ricoeur,
dans
bien sûr.
Dans le courant de Ricoeur, mais enfin, par exemple, c'est Rosan Vallon, dans le petit livre, oui. Le dernier...
Sur les invisibles, enfin,
voilà,
oui.
C'est le Parlement des invisibles parle de la possibilité d'une démocratie narrative.
Oui.
Bon, alors, démocratie narrative, c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin, en tout cas, sur l'importance que le fait de se représenter... Comme individu agissant, la façon dont ça peut enrichir la représentation. Et au fond, la fiction, elle est du côté de l'invention.
Parce que vous dites, page 172 de votre livre, qu'est-ce que c'est qu'être reconnu ?
Oui.
Alors, donc, se représenter, c'est être reconnu, c'est
ça ? C'est pas seulement c'est être reconnu, mais c'est parce que la reconnaissance, c'est aussi quelque chose de très ambigu. Qu'est-ce qu'on veut voir reconnu ? Il y a des modalités de la reconnaissance que le système juridico-politique ne satisfera jamais, parce qu'il y a une demande de reconnaissance qui peut être aussi complètement infinie et qui n'est pas de l'ordre qui est psychique, si vous voulez, qui est subjective, et qui n'est pas de l'ordre de ce que les institutions peuvent satisfaire. Mais les institutions peuvent, d'une certaine façon, permettre à l'individu, elles doivent donner à l'individu les conditions dans lesquelles il pourra lui-même conquérir son autonomie. Mais elles ne sont pas là pour pourvoir à ce que l'individu ne peut pas faire ou ne fait pas par lui-même.
Merci à tout le monde et puis bonne soirée. Merci surtout à vous, Madame Rovodallone, pour la clarté de vos propos, surtout.